vôtre dans l'ordre ou dans le désordre. Marceau s'en vient prendre soin de vous autres. On se reparle demain midi dans le Pit Stop, demain 14h avec les demoiselles. Dans le retour, bye.
Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Il n'y a personne qui croit à ça au coup. Là. Tous les autres partis ont dit oui. On le voit, le format avantageait pas M. Carney.
C'était le déficit record, mais t'as le déficit record du déficit record. Parce que t'es sur le podium, puis t'as Éric Girard, puis t'as encore Éric Girard. Là.
C'est comme un winner. Les enjeux qui te concernent.
M. Chalmat va faire ses annonces très bientôt. Là. Et ben, nous, on entend dimanche le 6.
Donc, ça fait donc bien désiré, M. Hamad.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Oh, franchement, on gagne, là. Je sais, c'est vous.
Boulevard 102. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que tu aies passé une belle journée. Ça a été relativement ensoleillé pour aujourd'hui. On en a profité de la lumière bien en masse. Mais pour ce qui est de ce soir, bon, il va faire noir. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième, on nous annonce entre 2 et 4 cm, avec peut-être cette nuit du verglas qui pourrait se continuer jusqu'à demain matin et même en mi-journée. Ça devrait se transformer en pluie, par contre. Donc, verglas pour demain matin et en mi-journée, ce sera de la pluie. Accumulation de neige de 2 cm pour demain, un maximum de 6 degrés. En soirée, pluie intermittente, minimum de 2 degrés. Vendredi, ce sera nuageux, maximum de plus 5. Et pour ce qui est du week-end, le topo a changé un peu. Ce sera de la pluie intermittente pour samedi avec un maximum de plus 5 degrés. Et dimanche, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 8 degrés. Mon invité de ce soir, c'est Dr. Joël Monzé. C'est un docteur en neurosciences. On va parler principalement de communication, un sujet super le fun à jaser. Donc, Joël est dans ses studios chez lui, puis on part la machine dans les prochaines secondes. Donc, bon 60 minutes, les amis. Merci d'être là.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, Joël Monzé, docteur en neurosciences. Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous?
Oui, très bien. J'ai réussi à survivre au 1er avril hier. Il y a eu d'énormes tentatives de m'hameçonner comme un poisson, mais finalement, j'ai pas mordu à absolument rien. Fait que je suis très fier de moi. Là. Hier, ça a été une grosse journée où énormément de gens m'ont testé. Toi, de ton côté, est-ce que tu as eu ton poisson d'avril? Est-ce que tu en as fait aux autres?
Non, j'ai pas eu l'occasion. J'étais en train de travailler bien gentiment chez moi. Puis tu sais, comme tu le sais, j'habite au milieu des bois, ce qui fait que j'ai pas croisé grand monde à part ma femme et mon fils.
Ouais, c'est ça. T'es très, très isolé, contrairement à moi qui habite quand même en ville. Mais je pense que le meilleur que j'ai entendu, je l'avais déjà entendu pour l'avoir déjà fait. J'étais rentré un peu plus tôt le matin dans la station de radio où je travaillais à l'époque. Puis j'avais appuyé sur 3 touches du clavier de tous les ordinateurs de tout le monde. C'était CTRL, Alt et flèche de droite, ce qui faisait en sorte que ton écran d'ordinateur se mettait, plutôt qu'être à la verticale, à l'horizontale, se mettait à la verticale. Donc, tout le monde est rentré le matin en regardant leur ordinateur, en disant « Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis tout était tout croche. Donc, les gens pensaient que c'était un gros virus informatique. C'était la grosse panique jusqu'à temps qu'un technicien de la place arrive en disant « Bon, c'est qui le cave qui a fait CTRL, Alt, puis flèche? » Puis bon, ben, j'ai jamais dit que c'était moi, mais aujourd'hui, s'ils m'entendent, ils vont savoir que c'était moi. Je m'excuse, je recommencerai plus jamais. parlant de blagues... T'es docteur en neurosciences, t'as fait énormément de livres qui touchent les enfants. Les enfants, est-ce qu'ils comprennent l'humour à un très bas âge? Est-ce qu'il y a différentes formes d'humour aussi, Joël Monzé? Est-ce qu'ils comprennent le sarcasme à un bas âge ou faut y aller un peu étape par étape pour faire des blagues avec nos enfants?
En fait, ils ne comprennent pas le deuxième degré.
Non.
Pas du tout, parce que les zones qui nous permettent justement de pouvoir aller au deuxième ou au troisième ou au quatrième degré, je pense notamment à Sol, qui est un de mes comiques préférés, il faut avoir développé des zones dans le préfrontal, qui est la partie la plus humaine de notre cerveau. Et ça, ça commence à être tout doucement accessible à l'adolescence, et j'ai bien dit tout doucement. Et c'est vraiment à l'âge adulte, au-delà de 25 ans, qu'éventuellement il va y avoir. Alors, il y a des exceptions, bien entendu. Il y a des jeunes, il y a des adolescents qui vont être capables de développer du du cynisme. Et au départ de leur cynisme, ils vont commencer à comprendre le deuxième degré parce qu'ils vont développer l'habileté. Donc, c'est un peu comme un sport. On peut développer certaines habiletés un peu plus rapidement que d'autres si on s'intéresse nécessairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les enfants ne comprennent pas le deuxième degré. Et c'est quelque chose d'intéressant à savoir parce que, d'une part, quand nous, on va leur lancer une taquinerie, ils vont peut-être rire avec nous, mais en fait, ils ne rient pas. Est-ce qu'ils vont maintenir comme impression, comme mémoire, ils vont avoir en fait l'impression qu'ils ne valent pas la peine, qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela, d'accord? Et en même temps, ils pourraient voir, par exemple, un copain ou une copine qui fait une roulade dans un cours de gymnastique. Le copain ou la copine est maladroit, donc il fait mal sa roulade, ça ressemble un peu à vidéogag. Ils vont rire de bon cœur. D'accord, sans aucune mauvaise intention, mais ils peuvent se faire punir éventuellement parce qu'on va leur reprocher d'avoir manqué d'empathie envers le copain ou la copine qui, lui ou elle, se trouve vraiment maladroit et se même peut-être pleure éventuellement parce qu'il s'embête d'avoir fait une mauvaise roulade, en fait. Mais l'enfant qui rit de bon cœur, il n'a aucune mauvaise intention.
Non, c'est ça, mais je me suis rendu compte avec mes gars. Moi, j'ai un gars de 9 ans, mon plus jeune, et l'autre 11 ans, il va avoir 12 ans bientôt, que les blagues, il n'était pas tout à fait à l'aise avec les blagues. Parfois, ils pouvaient laisser croire par leur faciès, du moins, que leur père riait d'eux. Puis souvent, mon plus jeune me dit « Papa, je comprends pas pourquoi tu ris pas de moi. » Puis là, je devais expliquer constamment. Non, c'était du sarcasme. Je te faisais une blague, en fait. Je t'ai dit quelque chose, mais je pensais le contraire. Puis je voyais que cette notion-là n'était pas encore comprise pour lui. Puis, tu sais, quitte à me faire dire dans 10 ans « Hey, papa, quand tu me disais telle affaire quand j'étais jeune, non, je te faisais des blagues. Non, mais je l'ai pris personnel. » J'ai arrêté complètement cette forme d'humour-là avec mes enfants, pour ce qui est du sarcasme, du moins. Pour le reste, bon, ils sont un peu cabotins, mais la forme, le sarcasme, t'as raison, faut attendre pas mal plus tard. Tu me parles de l'adolescence, puis même tu me dis des fois, à 25 ans, ils vont commencer à prendre le sarcasme. C'est particulier. C'est important de connaître le développement de notre enfant, puis où est-ce que notre enfant est rendu par rapport à son âge? Parce que sinon, on peut avoir une différente lecture de notre enfant qui n'est pas la bonne. Tu sais, moi, je faisais des blagues, puis mon enfant ne réagissait pas ou il était fâché. Dans ma lecture, c'est « Ah, il n'aime pas l'humour, il ne veut pas rire. » Mais non, c'est parce qu'il ne comprend pas. Puis de l'autre côté, lui, c'est son père dit quelque chose, puis là, il le prend personnel. Puis là, il va se traiter de pas bon exemple parce que moi, je trouve qu'il devrait pas prendre ça comme ça. Fait que c'est important de s'associer avec des Joël Mosé de ce monde pour nous expliquer que, bien que vous voulez être très drôle avec vos enfants, ben des fois, la façon de l'être ne l'est pas nécessairement pour eux, du moins pour leur perception, là.
Non, parce qu'en fait, ils sont dans une construction de leur identité. Donc, tant que leur identité n'est pas construite, tantôt je l'abordais d'un point de vue neurologique, mais maintenant je vais l'aborder d'un point de vue plus psychologique, tant que leur identité n'est pas construite, c'est difficile pour eux de pouvoir arriver à envisager que ce que l'on peut dire éventuellement d'eux à travers une blague sarcastique ne va pas nécessairement concerner la personne qu'ils sont. Et souvent, l'enfant va croire ce qu'on dit. Et il faut faire très attention. Tu sais, par exemple, tu as des matantes qui vont voir un petit-fils ou une petite-fille qui arrive, d'accord? Et ils vont dire « Viens-t'en ici, mon petit-anan, viens-t'en ici, ma petite-anante. » Et l'enfant va finir par croire, il va construire son identité au départ que « je suis tannant » ou « je suis tannante ». Donc, il aura la difficulté à comprendre à quel moment ben, est-ce que je suis une bonne personne ou pas. Et il va porter de la honte, il n'osera pas le dire, il se sentira mal et ça peut même induire des comportements non souhaités, par exemple à l'école, où les enfants vont avoir des comportements qui correspondent aux étiquettes qu'on leur a données et qui ne sont pas nécessairement des comportements qu'ils auraient eu naturellement. Alors, certains, tu sais, il y a une émission, je pense, sur Radio-Canada qui s'appelle « Les petits tannants ». Ça fait bien rire les adultes, mais je ne suis pas certain que ce soit la chose la plus idéale possible à faire avec les enfants. Puis j'aime beaucoup prendre, quand je donne une conférence et que j'aborde ces phénomènes-là qui sont connus comme ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Ce qu'il y a, c'est que ma conjointe est originaire de la région de Montmagny. Et quand elle était enfant, elle était très silencieuse, elle observait beaucoup les gens autour d'elle et elle essayait d'écouter, de comprendre les différentes communications. Et c'est ma tante la regardait et lui disait « Ah, t'as donc bien les yeux sales, toi !» Et donc, en fait, pour elle, Pour les matantes, c'est tu nous regardes, tu nous insécurises, je me sens mal parce que tu es en train de m'observer, peut-être de m'analyser. Et cette charge qui a été portée par les matantes, déchargée en tu as donc les yeux sales. Mais aujourd'hui, ma conjointe a 50 ans, puis je ne peux pas lui dire qu'elle a des beaux yeux. Parce que pour elle, c'est inconcevable. Parce qu'on lui a toujours dit qu'elle avait les yeux sales pendant des années, quand elle était enfant. Donc, on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on peut dire à nos enfants et même à nos adolescents va les marquer au fer rouge et va constituer une partie négative de leur personnalité. Et ils vont se battre tout le reste de leur vie contre des choses qu'on peut être dit avec beaucoup de gentillesse. Ici, les matantes, elles n'étaient pas très gentilles, on s'entend, mais je pense entre autres à une gardienne de mon fils quand il était gamin, où la dame disait « Viens-t'en ici, mon petit anon. » Je sais très bien qu'il n'y avait aucune mauvaise intention exact. De la part de cette femme-là qui aurait donné sa vie pour mon fils, mais ça crée des ambiguïtés qui perturbe l'estime de soi. Et Dieu sait si quand on est adolescent, c'est une des périodes dans lesquelles on a le plus de difficultés à avoir de l'estime de soi, et parce qu'on est en recherche de soi-même et on est en recherche de définition. C'est pas pour rien que les adolescents font beaucoup d'intimidation. C'est parce qu'ils sont tellement mal en dedans d'eux qu'ils projettent leur méchanceté sur les autres parce qu'ils essaient de trouver un peu de pouvoir dans une vie dans laquelle ils n'ont aucun contrôle.
C'est franchement intéressant, puis j'aime beaucoup jaser avec toi parce que tu me fais réaliser plein de choses. À un moment donné, ça doit faire 2 ans ou 3 ans qu'on avait jasé de ça, toi et moi, mais je te disais souvent que des fois, je demandais à mes gars, tu sais, qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant leur journée, parce qu'ils étaient à l'école, exemple, puis ils me disaient rien. J'étais à la maison, puis j'allais les voir, ils étaient en bas dans la cave, puis ils étaient en train de jouer, puis je leur disais « Hey, qu'est-ce que vous avez fait avant que j'arrive? » Puis ils me disaient « Oh, pas grand-chose. » Mais le jour où j'ai posé des questions « Hey, j'ai vu que tu jouais, je sais pas moi, au jeu de mémoire avec ton frère, tu sais, c'est quoi le jeu de mémoire? Peux-tu me le montrer? » Hey, là, les enfants, ils s'ouvraient à moi là, comme ils s'étaient jamais ouverts. Mais pourtant, là, ce qu'ils préféraient me répondre au départ, c'est rien. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose de super concret, j'imagine. Mais en leur posant des questions précises, « Hey, tu avais un cours de maths aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a surpris dans ton cours d'histoire? » Bien là, c'est rendu que mes enfants sont capables de me raconter tout le cours d'histoire au grand complet, Joël. Alors qu'avant, ils m'auraient dit, si je n'avais pas eu les enseignements de Dr Joël Monzé, avant, ils m'auraient juste dit, « Non, pas, j'ai rien appris en histoire. » Mais si je leur pose la question, ils s'ouvrent tout de suite. Et ça, du jour au lendemain, en changeant ma façon de communiquer avec eux, mes enfants deviennent plus intéressés à me raconter leur histoire. Plutôt que de dire, « Hey, tes jeux de... » C'est pas des Tamagotchi, mais eux autres, ils ont des petites cartes maintenant. Là. Puis là, ils vont chez des collectionneurs puis achètent des paquets de cartes, comme nous, on faisait dans le temps pour ce qui est des cartes de hockey. Bien, des fois, quand ils jasent avec les parents de ses amis, les parents des amis ne trouvent pas nécessairement une pertinence à collectionner ces cartes-là. Puis, avec un Joël Monzé dans ma tête, maintenant, je dis à mes enfants, « Hey, cette carte-là, elle vaut combien? Pourquoi elle vaut 20 $ tu sais? Puis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est exceptionnelle, cette carte-là? » Puis là, bien, ils m'expliquent la carte au grand complet. Joël, c'est plus facile de discuter avec mes enfants depuis que tu m'as appris à poser ce type de questions-là, puis je vais toujours, toujours, toujours t'en remercier de ça.
Avec plaisir.
Ça a changé la communication que j'avais avec mes enfants. J'étais tout le temps le gars qui entretenait la conversation avec mes enfants, puis je leur posais tout le temps des questions, puis c'était tout le temps oui, non et tout ça. En changeant mes questions... avec obligatoirement des réponses ouvertes, puis en m'intéressant à ce qu'eux s'intéressent plutôt que moi, ce qui m'intéresse moi, la conversation a changé totalement. Là. C'est rendu des fois que mon gars, mon plus vieux, me raconte, des fois c'est 20 minutes la trail, là. Pendant 20 minutes, il y a juste lui qui parle. Mm-hmm. Parce que j'y ai posé des questions sur, « Hey, finalement, ta trottinette que tu as achetée, comment elle fonctionne? Tu vas jusqu'à quelle vitesse? Comment tu as appris à chauffer ça? » Puis là, il me raconte tout ça. Puis là, il part. Alors que mes enfants, avant, se fermaient comme une huître. Parce qu'ils n'avaient pas l'impression que je m'intéressais à leur patente à eux.
Oui, mais c'est ça, il y a une recherche de connexion, en fait. C'est que nos enfants, puis c'est la même chose dans la plupart des disputes dans un couple, bien souvent, c'est une problématique superficielle qui vient relater le manque de connexion. Puis nos enfants ont besoin de se sentir en connexion avec nous, ont besoin de se sentir importants et valorisés dans notre regard, ont besoin de se sentir vus, entendus, parce que c'est ce qui va leur donner le droit d'exister. Et ce qu'il faut faire attention, je te dirais, par rapport à ce que tu venais de dire juste avant, c'est que parfois, quand on leur demande des questions sur l'école, ils ont vécu des moments qui ont été difficiles à l'école et ils ne veulent pas replonger éventuellement dans ce qui a été difficile durant la journée. Ou s'ils ont l'impression qu'avec notre ton, on est un peu interrogateur, donc ils ont l'impression qu'ils ont peut-être fait une gaffe et qu'ils s'attendent à se faire chicaner, là aussi, ils vont se refermer. Alors que quand ils sentent notre connexion, qu'ils sentent qu'ils ont le droit d'exister, et ils ont le droit de faire des erreurs, même éventuellement, pour pouvoir en jaser avec nous, mais à ce moment-là, il y a une grande ouverture qui va pouvoir se faire. Et je dirais que tu parlais tantôt de l'âge de tes enfants, 9-12 ans, c'est vraiment un âge qui est très charnière parce que le degré de conscience de l'enfant commence à être suffisamment développé pour qu'il puisse avoir un peu de recul et expliquer des choses. D'accord? On parlait tantôt de sarcasme, mais là, c'est troisième ou quatrième degré, le sarcasme. Donc, il commence à partir de 9 ans à avoir un peu de distance pour être capable de se voir aller et pouvoir éventuellement nommer des choses. Et cette période qu'on symbolise parfois en disant que c'est la préadolescence, pour moi, je la considère comme étant la première étape de l'adolescence. C'est vraiment une période charnière que j'invite tous les parents à vraiment cultiver. Parce que quand le jeune va rentrer aux alentours de ses 13 ans, dans tous les changements hormonaux qui vont se faire, et donc à ce moment-là, ils vont rentrer dans la première crise d'adolescence ou la deuxième phase de l'adolescence, eh bien, ils ne se comprendront plus. Mais si on a créé avec eux une belle connexion, qu'ils se sentent en sécurité avec nous, peut-être qu'au départ, ils vont avoir de la difficulté à oser nommer des choses, mais au moins, ils vont être capables de pouvoir, grâce en fait à la confiance qu'on a installée avec eux, ils vont être capables à ce moment-là de pouvoir nommer des choses et petit à petit pouvoir développer un vocabulaire qui va leur permettre de parler de leurs émotions et de leurs enjeux.
Puis, des fois aussi, se rendre compte que le temps... Notre perception du temps, nous, par rapport à eux, c'est pas du tout la même chose. T'sais, pour moi, je suis totalement dans le moment présent, puis je sais que là, ben, dans quelques minutes, il va falloir que j'aille à l'épicerie avec eux, parce que là, on arrive à la maison, il va falloir que je fasse le souper, puis après ça, ben, c'est le bain ou les devoirs, ou le devoir et le bain, puis après ça, c'est le dodo. Là, moi, je pense à ça dans ma tête, mais quand mon gars... Et s'ouvre, puis là, il me parle de son cours d'histoire sur Samuel de Champlain qui est arrivé à Québec et tout ça. Plutôt que de dire, « Hey, je trouve ça intéressant ton histoire, là, mais qu'est-ce que tu veux manger pour souper parce que je suis dans le moment présent? » Ben de prendre la peine, même si je l'ai entendu 100 fois, l'histoire de Samuel de Champlain, de prendre la peine d'écouter mon gars parler de l'arrivée de Samuel de Champlain à Québec, puis de quelle façon il a constitué l'habitat quand il est arrivé et tout ça. J'ai totalement changé ma façon de communiquer avec mes gars, puis tu sais quoi, je vous recommande à tout le monde tes livres, parce que ça a changé la vision que j'avais d'avoir des enfants, parce que je me disais, mes enfants me trouvent plate, ils me trouvent pas plate, ils veulent me parler, c'est juste que je leur pose pas tout le temps les bonnes questions, puis des fois, ben ma tête est là, mais elle est pas tout à fait là, fait que je passe à d'autres choses quand ils me parlent de quelque chose qui, pour eux, était super important. Donc, merci, Joël. Merci beaucoup.
Avec plaisir, avec plaisir.
On va parler de plein de sujets ce soir. On va parler de communication, bien entendu. Puis Pascal, ma collègue, m'a envoyé un article que j'ai lu sur rtbf.bi. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Là. C'est de
l'actualité. C'est l'équivalent de Radio-Canada, mais en Belgique.
OK, voilà. Et l'article, c'est... Sur le boomerasking, on me dit que peut-être que je fais du boomerasking, on me dit que peut-être que c'est une mauvaise habitude. Parle-moi de ce qu'est le boomerasking et pourquoi tu veux me parler de ce type de communication-là.
Mais en fait, c'est que je trouvais que c'était une nouvelle, quand j'en ai parlé avec Pascal justement pour préparer l'entrevue, je trouvais que c'était une nouvelle manière de mettre les gens dans une petite boîte, de les définir et souvent de manière extrêmement péjorative en les affublant de tout le mal que la société peut avoir. Un peu avoir construit. Tu sais, de tout temps, on a utilisé des mots comme grossier, goujat, balourd, cuistre, mal appris, et qui sont des manières de définir un certain type d'habitude pour que la personne peut avoir dans l'environnement social. Et ça fait en sorte à ce moment-là que, on peut arriver à comprendre un petit peu éventuellement ce qu'on est en train de nommer au besoin. Mais on assiste depuis quelques années à toute une série de définitions qui, comme le boomer skink, va venir encapsuler la personne en préjugeant que c'est intentionnel. Tu sais, le goujat, on va dire, c'est quelqu'un qui est mal appris, qui est mal éduqué, qui manque de civisme. Mais on ne va pas éventuellement penser que cette personne-là, elle, intentionnellement, elle est en train d'essayer de faire du mal à l'autre personne. Alors que quand on parle justement de boomer asking, mais d'autres mots comme le small talk, le mansplaining, le manspreading, le martyrs, d'accord, le martyr, c'est quand c'est un garçon qui voit un homme qui parle, ben, tu sais, de la manière dont tu es en train de définir l'homme actuellement, je ne me sens pas très à l'aise avec cette manière de définir là. Ah ben ça, c'est des larmes d'homme, parce qu'en définissant ton malaise, nécessairement, tu es en train de minimiser les difficultés que vivent toutes les personnes, toutes les communautés minoritaires, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours affubler les gens de quelque chose de très, très négatif. Et quelque part, ben, c'est triste parce qu'on entretient continuellement. Tu sais, tantôt, on parlait de l'importance de la communication et de la connexion avec nos enfants, mais c'est la même chose avec les gens avec lesquels on vit, que ce soit notre partenaire de vie, que ce soit nos collègues ou les gens qu'on croise éventuellement dans des réunions sociales. Mais on n'a pas nécessairement, même si on peut être parfois maladroit, on n'a pas nécessairement une mauvaise intention.
Je comprends très bien. Le boomer asking, est-ce que tu peux me donner un exemple? Bon, je suis à table avec un ami ou encore une amie, puis j'ai quelque chose à lui dire par rapport à moi, mais je lui pose une question à elle tout en glissant ce que moi j'aimerais faire. C'est à peu près ça?
Oui, et c'est souvent, en fait, il y a plusieurs formes. Donc, l'autrice qui a développé ce concept-là, elle développe trois formes. La première, en fait, c'est de dire, écoute, toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Parce que moi, écoute, j'ai la chance, j'ai obtenu des places VIP pour aller voir le show de tel chanteur populaire, puis j'ai l'intention de faire ça. Et la base, c'est de dire, ben, tu poses une question, mais tu n'attends même pas ma réponse. Tu es déjà en train de dire les choses extraordinaire que tu es en train de faire. Et je peux comprendre que si on est en train de discuter avec la personne et qu'on a ce genre de situation, c'est peut-être pas nécessairement confortable, surtout si on a un peu de jalousie ou on trouve que l'autre a une chance extraordinaire de pouvoir vivre ça. Tu as l'autre demande plainte, si tu veux, là, ça va être le côté négatif. Ah, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Parce que moi, mon week-end a été terrible. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Mon téléphone est tombé dans le bol de toilette. Je suis allé faire telle ou telle chose. Il m'est arrivé telle mauvaise histoire. Donc là, à nouveau, on pose une question et on en profite pour raconter tous les malheurs qu'on a vécu, d'accord? Et la troisième type de chose, c'est plus neutre, en fait, mais on est toujours dans la même situation. On pose la question, on n'attend pas la réponse, mais c'est avant tout pour pouvoir enclencher la communication et nommer des choses qui nous concernent. Donc, en fait, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de relation qui s'est créée, c'est juste une manière de créer une émotion chez l'autre pour que l'autre personne fasse attention à ce qu'on est en train de nommer.
Mais en même temps, quand tu utilises cette technique-là, tu démontres un désintérêt envers la personne qui est en face de toi. Puis c'est de l'égocentrisme, en fait, là. Tu poses une question, mais tu ne veux pas la réponse. Mais ce que tu veux, c'est dire ce que toi, tu vas faire ce week-end. Donc, la personne qui est en face de toi, techniquement, elle devrait se sentir comme si elle valait rien à tes yeux, là.
Mais en fait, c'est une manière de pouvoir le nommer. On s'entend que si une personne se comporte comme ça vis-à-vis de moi, que c'est occasionnel, d'accord, je dis « Ah tiens, la personne, c'est son style ». Je n'ai pas nécessairement imaginé qu'il y a une intention perverse contre moi, éventuellement. Et si éventuellement je le fais, d'accord, ben j'espère que la personne va me dire « Hey Joël, je me suis senti mal à l'aise dans la manière dont tu as introduit le fait, ce que tu as fait pendant la fin de semaine. » Donc, quelque part, ça, l'idée, c'est de voir de quelle manière le dialogue peut se créer pour justement rétablir au besoin un minimum de complicité, un minimum de relation. Parce que si la personne ne le fait pas exprès, on s'entend qu'à partir de ce moment-là, ben, la personne peut dire « Hey, je ne m'en suis pas rendu compte, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. » Puis pour moi, j'avais pas l'intention, mais bon, c'est vrai, je vais faire attention à cet élément-là, ce qui fait que à partir de là, on peut créer un dialogue, on peut créer des mots ou des conventions qui vont faire en sorte que la relation va pouvoir se créer, la connexion va pouvoir se faire.
Je regardais les statistiques là, selon un psychologue américain. C'est entre 40 % et 60 % de nos conversations qui touchent l'ego. Donc, c'est-à-dire que ces conversations-là se concentrent sur nos propres sentiments à nous, nos propres opinions et nos expériences personnelles. Et ce que le psychologue américain mentionne, c'est que sur les réseaux sociaux, ça atteint pas 40, ça atteint pas 60, c'est 80 % de ces conversations-là qui toucheraient notre ego à nous.
Oui, puis je pense que les réseaux sociaux favorisent beaucoup tous les aspects narcissiques. D'accord. Puis en même temps, tu as probablement déjà eu, puis nos auditeurs aussi l'ont probablement déjà observé, ils ont des amis ou des amis qui sont allés faire une super semaine à Cuba, il y a eu plein de belles photos, puis quand on les croise après, on leur dit « Hey, t'as dû donc vécu une belle semaine, toi ?» Et alors la personne te répond « Ah non, ne m'en parle pas, j'ai eu la tourista, j'ai passé la semaine sur le bol de toilette. » D'accord. C'est-à-dire que par définition, bien ouais. souvent, on va mettre sur les réseaux sociaux soit des choses extraordinaires, soit des choses qui sont terribles. Regarde actuellement toutes les discussions qu'on peut avoir au niveau politique, ça se déchire à gauche et à droite, d'accord. Mais c'est beaucoup des luttes de tension égocentriques à la rigueur, parce que chacun va percevoir l'environnement politique dans lequel on est, que ce soit face à la politique internationale, soit au Québec, soit éventuellement face au Canada, d'accord, en fonction de ses propres réalités. Mais par définition, c'est un peu logique, dans le sens que même si... Tu sais, quand je faisais de la clinique comme psychothérapeute, on ouais. s'entend que j'étais totalement dédié à la personne qui me racontait, qui me partageait des choses parfois où j'étais la seule personne à qui la personne osait partager des choses qui sont parfois extrêmement dures ou terribles à avoir vécues. Mais mon rôle de psy à ce moment-là est d'être totalement ouvert à cette personne-là. Si je rencontrais cette personne-là, mais dans un autre contexte, d'accord? On s'entend que ce n'est pas mon patient, c'est une personne que je rencontre dans un autre environnement, mais il y a de fortes chances que la discussion va être totalement différente parce que là, on sera sur le pied d'égalité. Alors, est-ce qu'il y aura 40 % Est-ce qu'il y en aura 60 % en fonction des sujets de discussion? Ce que j'aurais envie de te dire, c'est que parfois, bon, tantôt tu signalais mon doctorat, le nombre de fois, en fait, qu'il y a des gens qui me posent des questions, justement, qui posent des questions. Puis j'ai déjà eu, malheureusement, une réflexion après d'une personne. « Ah oui, t'as pris pas mal le plancher, toi, ce soir. » C'est parce que c'est toi qui me posais des questions. Tu sais, mais je peux comprendre que peut-être que la personne avait une autre intention. Moi, j'y allais généreusement, mais la personne l'a perçue d'une manière totalement différente, alors que c'est elle qui entretenait, justement, les réponses que je lui donnais, en fait.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui se concentrent vraiment? Puis non, tiens, je vais poser cette question-là en premier parce que c'est dans l'ordre. Pourquoi on n'a pas appris à communiquer efficacement quand on était au primaire et au secondaire? Pourquoi il n'y avait pas des cours de communication adéquates avec les gens qui nous entourent? Pourquoi ça n'existe pas?
Parce que je pense que notre école est toujours fondée sur un principe maître qui est apparu dans les années au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il faut former les futurs employés. Autrement dit, on ne leur demande pas de réfléchir, on ne leur demande pas de communiquer, on leur demande de produire dans une usine ou dans un ministère, par exemple, ou autre chose. Donc, à partir de ce moment-là, on se concentre essentiellement sur les mathématiques, sur l'histoire, sur le français. On est beaucoup dans le fonctionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est tous blessés en relation. On a tous vécu des moments. Tantôt, je te parlais de ce que ma conjointe a pu vivre quand elle était enfant. Mmh. D'accord? Mais je suis certain que toi, tu as eu des moments où tu t'es senti blessé quand tu étais enfant ou adolescent. Moi, ça a été mon cas. Je suis certain que les personnes qui nous écoutent aussi, il y a eu des moments où ils se sont sentis mal compris, mal jugés, mal perçus. Donc, on se blesse en relation. Donc, d'oser aborder les moments qui ont été difficiles. Tu te souviens, tantôt, je te disais que les enfants, quand on leur pose des questions, qu'est-ce que tu as vécu à l'école aujourd'hui, ben, ils vont avoir des difficultés à répondre parce que replonger dans des choses qui sont difficiles, dans des choses qui nous ont fait mal, ça demande du courage. Donc, échapper à la relation, échapper à la connexion, échapper à l'intimité et à la vulnérabilité, c'est une manière d'éviter de devoir réguler nos émotions. Je me souviens, quand j'étais dans la trentaine, je vivais un moment qui a été compliqué dans ma vie, où je remettais beaucoup, beaucoup de choses en question et qui ont donné en fait en même temps l'élan de ce qui a suivi. Donc, c'était un moment difficile, mais très productif ou très heureux pour moi. Et je me souviens, je parlais avec une de mes collègues psychologues qui me disait « Ah, t'es tellement beau pour l'instant, t'es tellement vulnérable. » Puis moi, dans ma tête, je dis « Mais c'est parce que la dernière des choses que je veux vivre pour l'instant, c'est de la vulnérabilité.
Ouais. »
Parce que j'étais encore avec des concepts que l'homme doit être fort, l'homme doit être solide, l'homme doit savoir où est-ce qu'il s'en va, l'homme doit être capable de pouvoir être celui qui apporte l'argent au ménage, celui qui prépare la pension et ainsi de suite. Vous savez, les fameuses images du chasseur-cueilleur, OK? Alors que dans la trentaine, il y a vraiment eu une transformation où je me suis rendu compte que dans la vulnérabilité, il y avait une force. Et que ma force vient de ma vulnérabilité et pas des images de moi-même que je me suis construite avec l'éducation que j'ai reçue. D'accord? Mais tout ça, on peut le vivre plus jeune. C'est certain que quand j'ai accompagné des enfants et des adolescents dans mon bureau, je les ai accompagnés là-dedans. Mes enfants, je les ai accompagnés aussi à être capables de pouvoir accepter leur vulnérabilité pour pouvoir arriver à se définir. Mais ce n'est pas évident quand tu es en train de te définir comme enfant. Alors, si nos écoles, on pouvait juste abandonner l'idée d'envoyer tout le monde à l'université et essayer de commencer à voir c'est quoi qu'on a besoin aujourd'hui pour vivre dans une société pacifique. Si on reproche beaucoup de choses à notre voisin du Sud pour l'instant, mais à la base, ce sont des problèmes de communication, c'est des problèmes de relation. Donc, comment est-ce qu'on communique autrement? Comment est-ce qu'on crée une relation autrement dans le respect des uns et des autres? Mais si le professeur lui-même a de la difficulté à bien réguler ses émotions, si lui-même a des blessures qu'il n'a pas encore, dont il n'a pas encore pris soin, si lui-même, quand il est devant sa classe, il a peur que le groupe classe pourra aller dans des directions qu'il ne serait pas capable de contrôler pour avoir un minimum de calme et de sérieux, bien c'est difficile pour le professeur d'oser se montrer vulnérable devant ses élèves. Il faut une certaine solidité pour être un professeur, d'accord? Donc, si le professeur ne sent pas cette solidité-là, ça va être difficile pour lui. Si toi, tu ne sentais pas la solidité que tu as aujourd'hui et dans ta manière de communiquer avec tes garçons, bien, probablement que ce serait beaucoup plus compliqué pour toi de rentrer dans une vraie relation avec tes jeunes.
J'ai écouté un podcast, Joël Monzé, et dans ce podcast-là, la dame parle en disant qu'elle est incapable de faire du small talk. Et le small talk, à mes yeux, à moi, il y a une raison d'être. Là. Quand on commence une conversation avec un individu, c'est que si on rentre trop rapidement dans une discussion très intense avec une grosse communication, ça peut faire peur aux gens. Tu sais. Puis, tu sais, de parler de choses très sérieuses dans l'ascenseur, c'est jamais vraiment bien perçu. Là. Donc, le small talk dans l'ascenseur, tu sais, ça... Bonjour, comment ça va? Vous passez une belle journée? Il fait beau aujourd'hui? Patati patata, mais il y a des gens qui ont en horreur ces petites discussions-là. Il y en a d'autres qui ont en horreur les communications qui peuvent s'avérer négatives. Tu sais, des gens qui disent ouais, moi, je fais un travail, mais je ne l'aime pas tant. Il y a des gens qui vont se reculer à table parce que là, ils disent oh, tabarouette, là, on s'en va dans une zone où là, je suis plus à l'aise. On dirait que ça aurait été bien qu'à l'école secondaire, tu sais, j'ai jamais eu la chance d'avoir des professeurs comme ça, mais qu'on puisse avoir des discussions ouvertes sur divers sujets pendant 60 minutes. Ça peut toucher l'actualité, ça peut toucher les amours quand on est adolescent, ça peut toucher plein de sujets, mais ils ne nous ont pas appris à faire ça, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, autour de la table, il y a des gens qui sont constamment en train de s'ajuster puis de savoir où est-ce que je me situe par rapport à l'un, par rapport à l'autre. Pourquoi lui, il a tellement de choses intéressantes à dire, puis moi, j'ai absolument rien d'intéressant à dire. Pourquoi je me lève pour aller aux toilettes, pour aller dans mon safe space, parce que quand je suis aux toilettes, il n'y a plus personne qui me regarde. Puis je ne me compare plus aux autres, puis là, je vais rester de longues minutes longtemps. Il devrait y avoir ce type de cours-là de communication à l'école secondaire où tout le monde peut donner son opinion puis en apprendre peut-être un peu plus sur les autres. Le small talk, c'est pas néfaste pour la société, là. Ça a une fonction, là.
Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que le concept de small talk, en fait, a été complètement détourné de la personne qui a utilisé la première fois ce concept-là. En fait, ça nous vient d'une chanson de Katy Perry où elle est en train de se rendre compte, en fait, elle chante dans sa toune, elle part du principe, ben, on était des étrangers, on s'est rapprochés, on est devenus des amoureux, puis aujourd'hui, on est redevenus des étrangers. En fait, et c'est là le small talk, dans le sens que ce qu'elle dénonçait, c'est la communication insipide qu'il y avait eu à l'intérieur du couple. Parce que la frivolité du plaisir de la rencontre, les premiers ébats sexuels éventuels, ben, probables, se sont faits. Et puis, c'est comme si le couple n'avait plus rien à se dire au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, d'accord? Et qu'il tombait dans un small talk où on parle de la météo parce qu'on n'ose pas toucher à notre connexion et on n'ose pas toucher à notre intimité relationnelle. Donc, c'est ça à la base. C'est le small talk dans un ascenseur, il est normal. Le small talk, quand on est dans un 5 à 7, il est normal et nécessaire.
Ben ouais.
Parce que pour rentrer dans une communication vraie ou pour rentrer dans une communication où les deux personnes vont... oser montrer leur vulnérabilité ou utiliser leur vulnérabilité, eh bien, il faut qu'il y ait eu un apprivoisement. Et le small talk fait partie de l'apprivoisement. C'est parce que deux personnes ont commencé, par exemple, mettons qu'on ne se connaît pas, puis on est en train de prendre une bière ensemble, et je demande, tiens, Yannick, est-ce que tu as des enfants? Et donc, à ce moment-là, c'est une question qui est naturelle. Alors, c'est certain que si toi, tu as deux enfants que tu aimes en parler de tes gars, d'accord, tu vas avoir du plaisir à m'en parler, puis là, il y a une connexion qui va pouvoir se faire. Si je sais que tu n'as pas d'enfant, je ne vais pas te poser la question, mais si je ne te connais pas du tout et que je te pose la question, mais que tu n'en as pas encore, tu te dis, hey, c'est un projet, mais pour l'instant, j'en ai pas encore. D'accord, je dis, ah, OK, on passe à autre chose. C'est... Ou la personne peut dire, ben oui, c'est un choix. Tu sais, je n'ai pas encore rencontré la femme avec qui je me sentirais vraiment à l'aise d'en faire. Ou l'inverse, tu peux avoir des personnes qui disent, non, pour moi, ce n'est pas une option d'avoir des enfants. Je trouve que notre monde va nulle part, donc je préfère ne pas. Donc, si la personne est simplement accepte simplement de se livrer et de nommer les choses, mais il y a une relation, il y a un apprivoisement qui peut se faire. Donc, le small talk, c'est problématique dans un couple, dans une famille. C'est même pas nouveau. Écoute, il y a une pièce qui est probablement la pièce la plus jouée au monde, qui s'appelle La cantatrice chauve de Ionesco. Elle est jouée, en fait, c'est à la France que Brou est au Québec. Tu sais que Brou, c'est probablement la pièce la plus jouée au Québec.
Ouais.
Eh bien, en France, c'est La cantatrice chauve qui est jouée non-stop depuis 1950.
La cantatrice chauve.
Chauve, ah. Oui. Et en fait, c'est une pièce. Bon, j'ai eu l'occasion de la voir, mais pas à Paris, mais dans mon collège quand je faisais mon secondaire à Liège. Et en fait, ce sont des personnages qui discutent de tout et de rien, mais il n'y a rien qui se tient. Il n'y a aucune conversation, il n'y a aucune logique. Ça parle de choses qui n'ont pas de sens, comme la météo. Tu sais, tu m'entendras moi jamais parler de météo, mais c'est possible que, par exemple, je veux faire du ski, puis il y a un monsieur qui attend en file avec moi, puis on sait qu'on va monter sur la chaise ensemble, l'un à côté de l'autre, qui va commencer à dire, hey, on a de la chance cet hiver, on a vraiment un bel hiver pour faire du ski, je suis content, puis ah, demain, il va prévoir une autre tempête, c'est vraiment génial. Tu sais, on va parler de météo, mais ça parle de la passion de la personne. Mm-hmm. Elle est heureuse de vivre sa passion du ski et elle me le partage. Alors, je peux rester au premier niveau en me disant, hey, il me parle de météo, c'est du small talk. Ou je vais au deuxième niveau, hey, il est en train de me parler de la passion qu'il a et du fait qu'il est heureux à 70 ans de pouvoir encore faire du ski plusieurs fois par semaine parce qu'il est assez en forme pour pouvoir le faire. D'accord? Donc, il a pris soin de lui. Donc, moi, je suis capable de décoder tout ce qui est en arrière de la discussion de la météo. OK? Mais si on passe une soirée ensemble, toi et moi, et qu'on ne fait que de parler de météo, ça va être du small talk, ça veut dire qu'on n'a vraiment plus rien à se dire.
Oui, puis je ne suis pas un fin connaisseur de la météo, Joël, là, je peux te le dire. Je la lis à tous les jours pour pouvoir en mentionner un peu à nos auditeurs, savoir quelle température il va faire dans les prochaines heures, mais je ne serais pas capable de t'entretenir pendant 2 heures. Que penser des gens, Joël, qui sont autour d'une table dans un souper d'amis et qui se rendent compte qu'ils sont finalement extrêmement seuls, qui se sentent pas bien dans une foule, ils ont l'impression de ne pas être à leur place, sont incapables de rentrer en communication avec d'autres individus. J'ai une collègue qui me faisait part de ce malaise-là, puis quand elle m'a fait part de ce malaise-là, c'était en onde, et il y a énormément d'auditeurs qui ont dit « Écoute, on dirait que c'est moi qui parle. » Donc, elle, quand elle est dans une pièce où il y a, je ne sais pas moi, 50, 60 personnes qui jasent, à un moment donné, elle est comme plus en train de parler à personne. Elle regarde tout le monde, puis elle dit là, tout le monde parle. Puis là, moi, je me sens complètement isolé préfèrent souvent quitter que de tenter de s'intégrer dans une conversation. C'est-tu les années 2000? Est-ce que c'était comme ça dans les années 1900, 1800? Bon, j'ai connu quelques décennies dans les années 1900, mais est-ce que c'était comme ça avant ou c'est juste l'avènement des réseaux sociaux qui fait en sorte qu'on préfère parler avec des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, mais quand ça arrive dans la vraie vie, on pogne le stress, puis on se dit « Oh, tabarouette, il y a beaucoup de monde ici, puis là, je suis plus entouré, puis je ne sais plus quoi faire, puis je ne sais plus qui je peux aller voir, puis j'ai peur de déranger. » C'est particulier, les communications en 2025, là.
Mais je pense que c'était déjà comme ça auparavant. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, je pouvais être avec un groupe d'amis avec lequel on était très, très unis. Même parfois, quand on avait des semaines de relâche, nos parents nous permettaient de louer un chalet, puis on passait une semaine entre ados. On avait 15-16 ans, puis on avait un fun pas possible, puis on ne prenait pas d'alcool. On était juste là pour faire du sport, pour aller me promener. Et tout ça, les parents nous faisaient assez confiance, heureusement. Et puis on n'exagérait pas parce qu'on était trop honoré d'avoir cette confiance, mais ça m'arrivait parfois quand on était de retour du collège, il y avait des discussions qui se faisaient dans notre groupe, puis moi je trouvais que ça ne m'intéressait pas, ou j'étais ailleurs, ou j'étais pris dans mes propres émotions et dans mes propres choses, ce qui fait que par mesure de respect tant pour eux que pour moi, mais je m'en allais, puis j'allais marcher un peu, et puis éventuellement je revenais. Puis j'ai une de mes amies qui à un moment donné m'avait écrit une petite lettre pleine d'affection en disant « Tiens, on ne te comprend pas, pourquoi tu pars comme ça de temps en temps ?» Donc, c'est quelque chose qui est là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais à le refaire, je dirais, écoutez, les amis, je vous aime beaucoup, mais j'ai besoin d'aller marcher un peu. Je vais aller seul. Si quelqu'un veut m'accompagner, il peut venir avec moi s'il le souhaite ou si elle le souhaite. Je le dirais peut-être autrement, mais c'est quelque chose qui est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois, on a trop de tendance, en fait, à se dévaloriser. Comme si ce que l'on pourrait éventuellement transmettre ou communiquer ou dire, ça avait moins d'importance ou moins de valeur que d'autres personnes. Alors, c'est certain qu'il y a des moments où on se sent plus compétent parce que c'est un sujet de conversation qui est proche de choses qu'on maîtrise. Donc, à ce moment-là, on peut peut-être se sentir plus à l'aise. Il y a d'autres fois où c'est exactement l'inverse, où simplement, on a peut-être juste envie d'autres choses comme interaction. Si les 60 personnes qui sont autour parlent, par exemple, d'un show que moi, je n'ai pas vu, ou d'un jeu vidéo auquel je ne joue pas, ben c'est certain que je vais avoir la difficulté pour moi d'embarquer dans la discussion. Mais pourquoi est-ce que dans un moment pareil, je ne me mets pas à méditer simplement? Méditer, ce n'est pas juste être en position de lotus. Ouais, je peux simplement me mettre dans un espace de paix.
Je comprends très bien, mais c'est le fait de se sentir seul dans une foule, alors que tu ne devrais pas te sentir seul. Tu es avec une vingtaine de personnes qui travaillent avec toi, une trentaine, une quarantaine. C'est un party d'employés ou c'est un mariage et tout ça. Tu es là, puis à un moment donné, tu te sens complètement seul et désarçonné par rapport à ce qui se passe. Puis il y en a qui préfèrent quitter. Ça a l'air que c'est quelque chose de très répandu. Moi, je ressens pas ça. Si je désire quitter, je m'en vais dire salut à tout le monde, puis garde, je m'en vais, c'est parti, puis j'ai fait le tour ce soir. Mais de se sentir seul dans une foule, alors que c'est des amis qui sont autour de toi, je trouve ça très particulier.
Mais si on ne sent pas la connexion avec les autres personnes, tu vois, si on ne sent pas la relation de cœur à cœur avec les personnes qui nous entourent, on peut être entre amis, on peut être à l'intérieur d'une famille, mais à ce moment-là, on ne sent juste pas la connexion et on ne se sent pas bien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui est très insécurisant. Ou alors, on va voir de l'autre côté, la personne est tellement sensible à tous les messages non-verbaux. Et qu'on va parler d'hypersensibilité parfois pour certaines personnes, notamment pour les jeunes et les moins jeunes, d'accord? Cette hypersensibilité à tout le langage non-verbal peut faire en sorte qu'éventuellement, on est envahi de toute une série d'informations et qu'on ne sait pas nécessairement comment traiter s'il n'y a pas de nouveau la relation de cœur à cœur, s'il n'y a pas de nouveau la capacité de connexion. Alors, quand tantôt je disais, bon, se mettre dans un état méditatif, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, on revient à soi, on tempère nos émotions, et on reconnecte en fait avec l'environnement dans lequel on est, mais dans un état de paix à l'intérieur pour diminuer le degré de mal-être dans lequel on est. Et c'est le côté de mal-être. Alors, on peut partir si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, d'accord? Mettons que le sujet de conversation ne nous convient pas et ça fait des heures et des heures qu'on tourne en rond, ben peut-être que oui, c'est une bonne chose. Ça se pourrait aussi qu'on ait été très amis avec un groupe de personnes, mais on a pris des directions différentes. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait d'avoir pris des directions différentes fait en sorte qu'on n'a peut-être plus vraiment d'atomes crochus ou d'envie de communiquer sur un certain nombre de choses. Tu peux aussi avoir de la jalousie, donc des gens qui sont jaloux éventuellement. Par exemple, tu es une personnalité publique, Yannick, et donc il y a des gens qui pourraient t'admirer parce que tu es une personnalité publique et d'autres qui vont te jalouser parce que justement tu as un micro et que tu vis une carrière qui te convient, tu sais. Puis si toi tu vis une carrière qui te convient et que moi je ne vis pas la carrière qui me convient, tu deviens une menace pour moi. D'accord, comme la personne qui dit ben j'aime pas mon travail, mais ça peut devenir menaçant pour une autre personne qui elle aussi n'aime pas son travail parce que ça la renvoie à sa propre à son propre cul-de-sac professionnel.
Donc elle fait fait de la négation. Donc elle est face à une personne qui aime pas son travail. Bon, toi tu sais pertinemment que tu n'aimes pas ton travail non plus, mais c'est non, c'est trop là, c'est les sentiments que tu ressens, tu n'aimes pas ça tout simplement, puis c'est le rejet automatique.
Oui, parce que ça fait trop mal. Il y a de la souffrance en arrière.
Ouais.
Tu sais, regarde à quel point ça a été compliqué pour beaucoup de gens, la pandémie, de devoir réfléchir. On avait besoin que M. Legault nous dise exactement ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Moi, je me souviendrai toujours d'une entrevue d'une chanteuse à Tout le monde en parle.
Guylaine Tremblay.
Moi, je veux. Comment?
Guylaine Tremblay.
Qui disait, moi, je veux que le gouvernement me dise quoi faire parce que je ne veux pas réfléchir.
Exact.
OK? Donc, à partir de ce moment-là, c'est certain. Et puis, c'est correct. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas réfléchir? Parce qu'elle a trop peur.
Ouais, c'est la douleur.
Moi, je vois la détresse de cette femme-là. Elle a peur de mourir ou elle a peur de vieillir ou elle a peur d'oser se positionner d'une manière différente éventuellement de son entourage. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, ben, si le gouvernement nous dit quoi faire, j'ai plus de risques à prendre. Et si cette personne-là a vécu différents traumatismes, c'est tout à fait compréhensible. Pour moi, ben, je vais agir. Moi, je préfère décider par moi-même que quelqu'un me dise quoi faire. J'ai une tête de cochon. Bon, ben, s'il y a des avantages et des inconvénients.
Exact. On rappelle aux auditeurs que ce soir, on a eu le plaisir d'être avec Dr. Joël Monzé, docteur en neurosciences, pour avoir accès à ses livres ou encore à ses conférences. C'est joelmonzé.com, joelmonzé.com. On fait une très courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Le Pit Stop. 102.1. La semaine, dans Marceau le midi, Marceau et Gravel refont le monde pendant 30 minutes dans le Pit Stop.
Yes, mon homme!
C'est simple, rapide et efficace. Et surtout, tellement divertissant. Ils ont pas la prétention de régler des dossiers, mais ils ont souvent des bonnes idées.
Hey, ça, c'est un beau midi, mon gars.
Le Pit Stop. Tous les jours de la semaine, midi.
Trop chaud, trop froid, ça arrivera plus à Alexandre Grenier-Marmet, qui a remporté sa thermopompe LG Dual Cool 12 000 BTU d'EnviroConfort d'une valeur de 5 200 $.
Oui, est-ce que je peux parler à Alexandre, s'il vous plaît?
Oui, c'est moi, salut
Reb. Hey, comment ça...
Ah, why not?
Comment ça va, mon chum? T'as reconnu ma voix? Alexandre, je t'annonce officiellement que tu es le grand gagnant de la thermopompe LG DuoCool.
Super, gros merci à vous et à EnviroConfort.
Félicitations, Alex. T'auras enfin la température parfaite en tout temps dans ta maison grâce à EnviroConfort.
Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera 40 millions. Puis en jouant en ligne, vous pourriez être à un doigt de mettre la main dessus. Bon, mettons 2-3. Ça dépend de comment vous pitonnez.
Si vous n'avez pas encore réservé votre condo pour juillet, il est grand temps de le faire. Les condos locatifs L'Aromate et la Vigie version 2 ont encore quelques unités disponibles et notre équipe vous offre des promotions sur mesure. Faites vite, visitez immeubleroussin.com et prenez rendez-vous dès maintenant.
Un emploi stimulant dans le domaine funéraire, c'est possible. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, l'humain est au cœur de tous nos gestes. Joignez-vous à notre équipe engagée, vous y trouverez un emploi où vous vous sentirez utile et valorisé. Consultez la section carrière de la coopérative funéraire des Deux-Rives.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez une boîte à planter d'une valeur de 40 $ à 24 $ de chez La Boîte à planter. Ou encore, obtenez un abonnement de 14 semaines au panier de légumes familial d'une valeur de 644 $ à 483 $ à la Cité agricole.
Si ça, ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Air Transat présente des amis qui se demandent où aller pour leurs vacances.
Hey, on va-tu à Londres?
Ah, bonne idée, mais qu'est-ce que tu penserais de Paris?
Ça va-tu?
Oui, c'est juste que je pratique mes accents, là.
Ne laissez pas filer cette offre.
Espagne.
Profitez vite de l'Europe à petit prix avec des vols sans escale à partir de 659 $ aller-retour, bagages de cabine et repas chauds inclus. L'occasion parfaite pour partir et revenir avec un bonjour.
Hello.
Ciao.
Bien maîtrisé. Des conditions s'appliquent.
Air Transat, le voyage nous transporte.
Depuis 30 ans, Je reçois traiteur régale le Québec. Boîte à lunch, buffet, barbecue ou repas raffiné, nos menus conviennent à tous les goûts et tous les budgets. Savoureux, bien présentés et parfaits pour chaque occasion. Obtenez une soumission gratuite sur jereçois.ca.
Avec son nouveau budget, votre gouvernement fait le choix d'un Québec fort pour affronter cette période de turbulence. Heureusement, le gouvernement du Québec est bien positionné pour stimuler la création de richesses et soutenir les Québécois. Nous agissons pour soutenir nos entreprises et nos travailleurs, pour améliorer nos réseaux de la santé et de l'éducation, et pour rendre l'État plus efficace. Pour en savoir plus sur le budget, rendez-vous au québec.ca/budget.
Un message du gouvernement du Québec.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Besoin de faire installer une fosse septique? Faites affaire avec de vrais pros. Chez Dexco Excavation, on en maîtrise l'installation sur le bout des doigts. Résidentiel, commercial, raccordement aux services municipaux, on s'adapte à votre situation pour des travaux durables et conformes aux normes. Accrédité pour tous les systèmes du marché et pour les subventions de la Ville de Québec, nous livrons qualité et expertise à prix compétitif. Dexco Excavation, plus de 20 ans d'expérience. DexcoExcavation.com.
Amateurs de camping, la belle saison est à nos portes. Pour votre roulotte, n'attendez plus et passez chez Roulotte Surmel. Laissez à nos conseillers expérimentés le plaisir de vous guider dans l'achat de votre prochaine roulotte. Et en plus, courez la chance de gagner votre achat. Roulotte Surmel, 7010 boulevard Sainte-Anne à Château-Richer. Ouvert les samedis et dimanches.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD.
Boulevard.
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Ce soir, on parle de communication avec Dr. Joël Monzé, docteur en neurosciences. J'ai le goût de te parler de faits, peut-être anecdotiques, qui me sont arrivés par le passé dans des soupers d'amis. Des choses que j'avais constatées, moi, contrairement à ma vie professionnelle, quand je suis dans un souper d'amis, je suis pas mal plus en mode écoute pour ramasser des histoires qu'en mode je vais tenter de prendre la place puis essayer d'être divertissant autour de la table. Ce qui fait en sorte que les gens qui me connaissent pas, qui sont à la même table que moi, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils pensaient que j'allais être le fun, ben je suis le gars le plus plate qui est en mode écoute puis qui dit jamais vraiment un mot. Mais il y a des choses que je constate, par exemple, dans les communications entre divers individus, c'est qu'il y en a qui peuvent être hyper positifs dans leur façon de discuter, c'est-à-dire « Ah, j'ai tellement hâte, on va avoir un bel été, on va aller à telle place, telle place, telle place, on va faire un road trip aux États-Unis en caravane. » Et il y en a tout le temps un autour de la table qui va dire « Hey, je suis vraiment content que tu ailles en vacances, là. Mais tu sais que c'est dangereux aux États-Unis à certains endroits. Tu peux te faire attaquer, là. C'est qu'est-ce que tu vas faire pour ta sécurité? Puis, tu penses-tu que c'est un beau milieu pour les enfants? Là? Quand il va pleuvoir, les enfants vont être pognés dans la caravane. Alors que la personne était super excitée de parler de son été, puis tu as l'autre personne qui arrive avec son instincteur là, pour essayer d'éteindre le feu. Puis ça, je trouve ça dommage. Moi, quand t'es cette personne-là autour de la table qui arrive toujours pour éteindre les autres puis faire part aux autres peut-être de tes propres peurs à toi, Joël, c'est d'une tristesse, ça, ce type d'individu-là autour de la table, mais on en a tous un, là. Des fois, c'est notre ami, des fois, c'est notre beau-frère, des fois, c'est notre conjointe ou parfois, c'est nous-mêmes. Il y a des gens qui vont entendre ce soir à grandeur du Québec. Et tabarouette, il est en train de parler de moi. C'est vrai que je suis de même. Quand quelqu'un me parle de quelque chose d'hyper positif, on dirait que j'ai tendance à amener tout le temps le négatif. Ces gens-là, est-ce qu'ils le font intentionnellement? Je pense pas.
Non, mais je pense que, tu te souviens, en début d'entrevue, on parlait que tu rapportais des statistiques où tu disais 40 à 60% de la communication générale est égocentrique. Ouais. Pour moi, ce genre d'intervention, et tu le dis toi-même dans ta question, c'est égocentrique. C'est la personne qui projette ses peurs sur la personne qui est en train de communiquer à quel point il va faire un voyage extraordinaire.
Ouais.
C'est certain, tu sais, ma grande fille, elle va partir en Amérique du Sud avec sa meilleure amie. C'est leur troisième voyage depuis la fin de la pandémie. Elles ont besoin, chaque été, elles partent en fait à deux pour faire un voyage qui leur permet d'ouvrir leurs ailes alors que pendant la pandémie, elles n'ont pas pu le faire. Tu sais. C'est certain, comme parent, j'ai un peu peur. Parce que, OK, c'est différent de deux fois où elles sont allées en Europe. C'est différent des deux fois où elles étaient quand même dans un endroit relativement sécuritaire. Elles partent comme ça, sac à dos, en Colombie, au Pérou. C'est pas encore très défini tout ça. Donc, c'est normal comme parent d'avoir peur. Mais c'est à moi de prendre soin de mes peurs. Parce que si je commence à communiquer mes peurs à mes enfants, eh bien, je vais leur dire, surtout, n'ouvre pas tes ailes. Surtout, ne réalise pas tes ambitions. Surtout, ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Alors, mettons que je sois un parent qui est beaucoup trop anxieux, qui va le faire avec son enfant. Son enfant, ce qu'il va apprendre, d'accord, c'est le monde, il est dangereux. Le monde, il ne me permet pas de me réaliser. Le monde, il ne me permet pas de voir des belles choses. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il y a quelqu'un dans son entourage, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, qui dit hey, « moi, je suis en train d'ouvrir mes ailes, regarde comment elles sont belles et elles vont bientôt se déployer. » D'accord ? Ah ben non, c'est trop dangereux. T'as-tu songé à ça ? Donc, c'est souvent, en fait, des peurs qui ont été apprises de par l'éducation que la personne elle a reçue. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses qui ont été vécues par une personne, qui ont été terribles, et la personne ne veut tellement pas que son enfant repasse par les mêmes traumas qu'il ou elle a vécu, qu'il va lui inculquer ces peurs-là, d'accord ? Il peut y avoir aussi de la jalousie, dans le sens que ce n'est pas juste que toi, tu te permets ce genre de voyage, alors que moi, je ne peux pas me le permettre. Mais je ne vais pas te le dire de cette manière-là, je vais te le dire pour casser ton fun. Mais je ne le fais pas nécessairement consciemment, je suis juste en train d'abîmer ton rêve parce que pour moi, c'est tellement inaccessible un tel rêve que je ne peux pas le faire. Puis regarde, tu vas avoir ça dans les gens qui vont se partir en entreprise ou qui changent de carrière. Tu as toujours des personnes qui vont essayer de défaire en fait le côté beau.
Gaslighting, c'est un mot que j'ai entendu dans les dernières années. Ça a l'air que ça existe depuis 1944. Donc, tu comprends que moi, j'apprends tout le temps comme tout sur le tard. Joël, je ne suis pas vite, visiblement, là, quand j'apprends des affaires. Mais gaslighting, c'est en français, on dit que c'est desservelage. Et ça existe depuis 1944. C'est arrivé dans un film qui s'appelle Gaslight, dans lequel un mari manipule sa femme en lui faisant croire qu'elle est folle. Puis l'exemple qu'on pourrait donner dans le quotidien, c'est-à-dire un conflit qui arrive entre deux collègues. Les deux collègues vivent le conflit, se disent des choses, puis après ça se retirent. Et quand ils reviennent plus tard pour faire la paix, bien, il y a quelqu'un qui a comme reconstitué le moment qui s'est passé où les deux collègues se sont obstinés, puis il tente de faire croire à l'autre que ce qui est arrivé, c'est pas vraiment ça. Puis lui se met en position de héros parce qu'il voulait juste aider dans le fond, et l'autre doit se sentir cheap. Il y a tellement de machiavélisme dans le gaslighting que je me dis, y a-tu vraiment des gens qui le font intentionnellement? Parce que le gaslighting, c'est une stratégie. Puis en passant, ça peut être vos amis, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre conjoint, ça peut être un collègue de travail. Gaslighting, ça existe pas mal.
Mm-hmm. Mais écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, il y a des gens qui ont des troubles de personnalité narcissique, ouais. D'accord? Et qui vont tout faire pour protéger leur image coûte que coûte. D'accord? Surtout s'ils ont eu du succès grâce, en fait, à ce comportement surtout, et qu'il est pervers et que ça leur permet de pouvoir projeter une image d'eux qui leur convient. Puis ça peut être une image positive comme une image négative parce que ça peut être des éternelles victimes, d'accord? Qui vont essayer de faire croire, par exemple, que l'autre a nécessairement tort ou que sa communauté a nécessairement tort et ainsi de suite. Donc, ce genre de choses-là peut exister, mais on est dans le trouble de la personnalité. Moi, je veux revenir sur ce qui pourrait se passer dans un cercle familial, dans un cercle amical ou éventuellement au travail. Mm-hmm. Je vais te raconter une histoire qui est arrivée à ma fille quand elle avait 6 ans. Et en fait, en général, quand les enfants se lèvent pendant la nuit, c'est moi qui me réveille, qui m'en occupe. Okay? Parce que ma conjointe a des problèmes de sommeil, donc ça a toujours été là, puis alors que moi, je peux intervenir, puis je me rendors facilement. Donc, les enfants peuvent me réveiller pendant la nuit, c'est pas grave, je vais les consoler, puis je vais retourner. Mais bref, je reviens avec la fameuse histoire en question, c'est qu'à côté de chez nous, il y a une rue où les gens peuvent rouler à plus de 80 km/h. c'est très dangereux. C'est une très, très longue ligne droite. Quand je dis peuvent rouler à plus que 80, la limite est 80, mais il y a des voitures qui roulent à 100, 120 km/h. Souvent, c'est des motos et ainsi de suite. Donc, c'est dangereux. Les enfants n'ont pas le droit d'être à moins de 100 mètres, d'accord, de cette fameuse route. Puis, on a assez de terrain pour qu'ils puissent aller jouer ailleurs. Et quand on avait de la visite, notre fille, elle est descendue avec la fille de la visite, qui fait quelques années de plus que elle, d'accord. Et je lui rappelle, d'accord, les règles, on ne peut pas descendre à la route. Alors, elle me regarde un peu pour voir c'est quoi la limite. Elle dit, ah ben, ce serait quoi la punition si je le fais encore? Je dis, ce serait quoi la punition? Hey, 24 heures dans ta chambre. D'accord? On s'entend, mon frère est mort dans des circonstances similaires. La dernière des choses que je veux, c'est que ça arrive à mes enfants.
Ben oui.
Okay? Puis moi, je pensais que le simple fait d'énoncer la punition, ça allait calmer ses ardeurs. Mais le lendemain, elle fait exactement ce qu'elle ne devait pas faire. Et elle s'arrange pour pouvoir que je la voie, en fait. Et donc, en fait, elle a passé 24 heures dans sa chambre. Elle est descendue pour les repas, mais le reste du temps, elle avait ses jeux, elle avait de quoi dessiner, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour être heureuse, mais elle était dans sa chambre parce que le message, c'est dangereux ce que tu as fait et tu as transgressé une règle élémentaire, c'est dangereux pour ta sécurité. Mais 15 ans plus tard, c'est « tu m'as mis dans ma chambre » parce que j'avais peur des orages. Et je lui dis, j'ai voulu dire, c'est arrivé. Écoute, on avait eu des discussions quand tu es adolescente à